Vous êtes sur RTL.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Frédéric Pechenard, ancien directeur de la police nationale et vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, chargé de la sécurité.
Bienvenue sur RTL, bonjour Frédéric Pechenard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Si vous étiez ministre de l'Intérieur, est-ce que vous feriez interdire les grenades LBD qui ont blessé gravement des manifestants ?
Je crois que pour répondre à cette question, il faut remettre rapidement l'église au centre du village. Et rendre d'abord un hommage extrêmement appuyé aux forces de l'ordre qui sont soumises à des agressions et des violences qui sont assez inédites. Il y a eu plus de 1000 blessés et à l'arrivée, pas un coup de feu, pas un mort. La doctrine d'emploi de la police en maintien de l'ordre et de la gendarmerie, c'est ne pas aller au contact, éviter le contact. Parce que s'il y a contact, il y a un risque. Quand vous voyez, par exemple, ce gendarme qui a été lynché à terre par un colosse à coups de pied, eh bien, ce gendarme n'a pas sorti son arme. Ses collègues qui étaient autour de lui, alors qu'il risquait sa vie, n'ont pas sorti leurs armes. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit des forces de l'ordre.
Donc vous êtes... Parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, on s'en sort bien, effectivement. Il n'y a pas eu un manifestant tué par les forces de l'ordre. Et puis il y a ceux qui disent, non, ces forces de l'ordre, elles sont épuisées. Il y a une dérive vraiment répressive.
Il n'y a pas de dérive répressive. Moi, je constate, semaine après semaine, des professionnels qui tiennent leur place. Vous savez, deux samedis de suite, le 17e a été durement touché avec le maire du 17e, Geoffroy Boulard. Mmh. Je suis élu du 17e. On a été sur place. On n'a pas vu, moi je n'ai pas vu de scène de manifestation. J'ai vu des scènes d'émeutes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez le droit de manifester en France, vous n'avez pas le droit d'être un émeutier. Quand vous brûlez les voitures, quand vous saccagez les vitrines, quand vous attaquez les policiers à la boule de pétanque avec des bouteilles d'acide, eh bien vous devez vous attendre à une réaction de la police.
Alors ceci posé, vous les connaissez ou pas vous ces armes LBD ? Vous avez utilisé leurs ancêtres, vous les avez...
Bien sûr,
je
crois qu'il faut avoir, il faut
que la police. Elles sont dangereuses ou pas ?
Alors, il faut que la police ait des armes intermédiaires, c'est-à-dire des armes qui permettent justement de conserver les émeutiers à distance pour éviter le contact.
Après, ça, ce sont des armes intermédiaires.
Alors,
j'essaie de comprendre ce que vous
alors,
dites.
Effectivement, c'est une arme intermédiaire, le lanceur de balles de défense, les grenades, le gaz lacrymogène, tout ça est fait pour éviter d'aller au contact, pour éviter donc qu'il y ait des blessures. Vous savez, des blessures, vous le faites avec un lanceur de balles de 40, vous le faites avec une grenade, vous le faites aussi avec une matraque, avec n'importe quelle arme. À partir du moment où vous attaquez les forces de l'ordre, il est assez normal que les forces de l'ordre ripostent. Les forces de l'ordre, elles sont...
Il y a quand même des manifestants gravement blessés.
Oui, mais...
Il y a plusieurs dizaines. Alors, il y a un journaliste qui s'appelle David Dufresne qui les recense. Lui, il dit qu'il y en a plus de 350. Mais il y a des gens qui sont blessés à vie. Avec par exemple, ils ont l'œil abîmé à vie.
Mais ça...
Vous dites, c'est quoi? C'est les risques du métier de manifestant?
Non, je ne dirais pas ça. Parce que, en termes de police... quoi qu'il soit, que ce soit le rétablissement de l'ordre ou l'arrestation de délinquants, le travail, c'est d'arrêter les gens et de les déférer dans la justice pour qu'ils soient jugés et condamnés. À chaque fois qu'il y a un blessé ou qu'il y a un mort, à plus forte raison, c'est un échec pour les forces de l'ordre. C'est toujours comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est toujours comme ça que les gens le ressentent. Quand vous voyez quelqu'un qui a un œil crevé, eh ben, ça peut être un manifestant, un émeutier ou n'importe qui. C'est quand même humainement quelque chose qui est difficile. Voilà. Mais après, ce que je pense, c'est quand vous avez affaire à des gens qui agressent de manière aussi violente les policiers, eh bien, c'est assez normal. Alors, il n'y a pas mille solutions, si vous voulez.
Sur l'arme elle-même, Jacques Toubon, par exemple, défenseur des droits, il demande l'interdiction des...
Ou les policiers se retirent complètement, ou alors ils essayent de maintenir l'ordre. Moi, je pense pas qu'il fait...
On ne peut pas se passer de cette arme, pour dire les choses.
Probablement
cette arme LBD.
Non, mais on peut probablement s'en passer, à condition que ce soit remplacé par quelque chose d'autre. Si cette arme n'est pas adéquate, si vous voulez, si on s'aperçoit que cette arme, elle cause trop de blessés ou des blessures qui sont trop grave, eh bien, il faut la changer, incontestablement. Mais par principe, c'est pas parce qu'il y a quelques blessés qu'il faut la changer, et surtout, il faut que les forces de l'ordre aient de quoi se défendre.
D'accord, voilà. Mais sur celle-là, vous dites, ça vaut quand même de se poser des questions.
Et bien sûr, mais d'ailleurs,
il
se pose...
Il y a une alternative à cette arme-là ?
Il y a des alternatives, il y a par exemple, il y a aujourd'hui, au lieu que ce soit des balles, il y a des mini-sacs de sable, si vous voulez, qui vont avoir un impact, mais qui ne vont pas pénétrer, qui vont donc s'écraser sur le manifestant, et donc je pense que ça diminue de manière assez sérieuse les risques, notamment d'œil atteint. Voilà, j'imagine, je n'en sais rien, je ne suis plus dans la police depuis maintenant 6 ans, mais j'imagine que ces solutions sont testées comme elles étaient du temps où je dirigeais la police nationale.
Jérôme Rodriguez, l'un des manifestants blessés, c'était samedi dernier, il accuse la police de l'avoir ciblé.
Oui, moi je ne crois pas du tout à ça. Les policiers, ils ne sont pas là pour se battre avec les manifestants ou avec les émeutiers. Les policiers préfèrent être chez eux le samedi. Ils sont là parce que c'est leur travail d'être là. Une fois de plus, je leur rends hommage. Je trouve que toutes ces polémiques sont injustes vis-à-vis des policiers qui font vraiment un travail absolument remarquable. Voilà.
Qui sont épuisés,
après,
elles peuvent continuer après, longtemps à ce rythme-là ou
alors, c'est vrai qu'il y a, il y a un risque de fatigue, il y a un risque de peur. Vous savez, les policiers, même si ce sont des grands professionnels... Même si ce sont de grands professionnels, ils peuvent être fatigués, ils peuvent avoir peur. Et je crois que dans l'affaire que vous citez, il y a une enquête de l'inspection générale de la police nationale. L'inspection générale n'est jamais tendre avec les policiers qui dérapent. Laissons faire et les enquêteurs et la justice. S'il y a eu une faute, j'en sais rien, moi j'y étais pas, je connais pas ce dossier particulier. S'il y a eu une faute, elle sera sans aucun doute sanctionnée. S'il n'y en a pas eu, elle le sera pas. Et laissons passer la justice et l'inspection.
Le Figaro, 15 novembre 2018, l'interview de Frédéric Pechenard. Je cite, il est insensé que Paris n'ait pas de police municipale. La semaine dernière, Anne Hidalgo a annoncé la création d'une police municipale. C'est donc une bonne décision.
Ah, c'est une bonne nouvelle.
Que vous saluez ce matin.
Et vous voyez, alors que je salue, c'est beaucoup dire, mais c'est une bonne nouvelle. Et vous voyez que moi, je n'ai pas changé d'avis, contrairement à Anne Hidalgo. Moi, je l'ai entendu pendant. Ça fait 5 ans
que je. Les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Ça fait 5 ans. Je dois être un imbécile, alors. Merci, Mme Martichoux.
Je n'ai pas changé d'avis sur la police municipale. Je dis qu'on peut changer d'avis. Je ne dis pas que vous auriez dû le faire. Alors, elle a changé d'avis, elle a eu tort.
Elle a eu raison de changer d'avis, d'accord. Mais elle n'a pas changé d'avis pour de bonnes raisons. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que Mme Hidalgo ne fait rien pour la sécurité des Parisiens. Ça fait 5 ans qu'à chaque fois que la droite et les Républicains et moi-même, on fait des propositions sur la sécurité et l'amélioration de la sécurité des Parisiens. On se fait systématiquement refouler. Et là, comme par hasard, à un an des élections municipales, elle s'aperçoit qu'il y a un problème d'incivilité à Paris. Elle s'aperçoit que Paris est une ville sale. Elle s'aperçoit que Paris est une ville avec de la criminalité. Et donc, elle décide de mettre une police municipale. On voit bien la tactique qui est purement politicienne et électorale. Ce qui, d'ailleurs, lui posera de gros problèmes au sein de sa majorité.
C'est pas de la politique politicienne de critiquer une décision qu'on a demandée pendant
pour
des
raisons,
années.
Je ne la critique pas. Je suis tout à fait favorable à la création d'une police municipale, mais d'ailleurs d'une vraie police municipale. Or là, on va avoir une espèce d'ersatz de police municipale, si Mme Hidalgo fait ce qu'elle veut, si elle le fait, ce qui n'est pas du tout...
Et pourquoi ersatz ? Parce,
pour une raison toute simple, c'est que sa majorité, notamment les groupes communistes et groupes écologistes, n'en veulent pas à aucun prix. Donc elle essaye de contenter sa base, qui est sa base électorale, qui sont les Parisiens, qui souhaitent avoir une police municipale, qui souhaitent que la sécurité s'améliore à Paris, et puis elle est tenue d'un autre côté par sa majorité qui est hostile. Alors oui, c'est une bonne décision de créer une police municipale. C'était d'ailleurs quelque chose qui était indispensable. Je dis que ça arrive tardivement. Je dis que par exemple, d'avoir une police municipale non armée à Paris, ça n'a aucun sens. Quand vous mettez des gens dans la rue avec marqué « police » dans le dos, qui circulent dans des voitures siglées « police », eh bien ce sont, et on l'a vu depuis Magnanville, et on l'a vu dans les dernières émeutes, ce sont des cibles.
Comment vous envisagez
qu'ils se protègent s'ils ne sont pas armés? Et comment vous envisagez qu'ils puissent protéger les Parisiens, si tout d'un coup il y a un fou qui est dans la rue avec un couteau, crie à la Ouagbar et se met à poignarder les gens, comment ces gens-là vont intervenir? C'est comme si vous disiez que les gens de l'opération Sentinelle, qui nous protègent, ne devraient pas être armés. C'est absurde.
Donc c'est absurde, c'est électoraliste,
oui,
c'est ce que veut dire.
Sans aucun doute.
À un an des municipales, elle cherche à redorer son blason.
Oui, c'est exactement ce que je pense. Après, c'est objectivement une bonne nouvelle, puisque a priori, tous les candidats potentiels à la mairie de Paris souhaitent une police municipale. On aura une police municipale à Paris au moins en 2020, et c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens, et ça, j'en suis ravi.
Les djihadistes français, qui sont près de 130 selon BFM, ce chiffre n'a pas été du tout confirmé officiellement, en Syrie reviendraient parce que les Turcs qui les détiennent les relâcheraient. Rien ne prouve que l'opération est en cours, hein, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui embarrasse le gouvernement. Écoutez ce que Pierre-Henri Dumont, qui est député LR, disait hier sur LCP au micro de Brigitte Boucher.
Il y a un choix qui est un choix juridique, il y a un autre choix qui est le choix de l'élimination. C'est-à-dire tuer des personnes qui ont pris les armes contre la France. La France ne doit pas, en aucun cas, jamais, réaccueillir des personnes qui ont pris les armes contre la France.
Le gouvernement a le choix de les éliminer, dit-il, ce député LR. Est-ce qu'il dit tout bas, est-ce qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? C'est-à-dire qu'il vaut mieux les tuer sur place, c'est ce qu'il dit, que de les voir revenir en France.
C'est difficile de parler de ça à partir de votre micro. C'est-à-dire que concrètement, où nous sommes sur une scène de guerre ce qui est le cas en Syrie, et donc c'est des gens qui se tirent dessus et qui se combattent, et quand vous combattez, vous faites la guerre, ben vous êtes amené à tuer ou à mourir, c'est une chose. Après, si il y a des djihadistes, quels qu'ils soient, ou des criminels, quels qu'ils soient, qui arrivent sur le territoire national, il n'est pas question de les éliminer. Il est question à ce moment-là de les arrêter et de les traduire dans la justice.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce confrère LR ?
J'ai pas dit que j'étais pas d'accord, je vous ai expliqué que c'est pas la même chose si vous vous trouvez en Syrie ou si vous vous trouvez à Paris. Moi, ce que je pense, c'est que les gens qui ont été arrêtés en Syrie doivent y rester, voilà. Ils doivent
donc
être jugés. Ils doivent être jugés sur place. Et si possible, ils ne devraient pas revenir. Idéalement, ils ne devraient pas revenir. Maintenant, s'ils reviennent, si d'ailleurs à chaque fois ça s'est passé, s'ils reviennent,
il faut
deux choses.
Il faut
absolument qu'ils soient mis en prison, la première chose. Et deuxièmement, il faut impérativement que on place la rétention de sûreté qui est prévue par la loi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris les armes en France, vous savez, ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont assassiné, qui ont tué, qui ont violé, et si on en récupère en France, et on l'a déjà fait, il faut faire en sorte de les mettre hors d'état de nuire. Il y a une possibilité juridique, c'est à l'issue de leur peine, la rétention de sûreté.
Merci Frédéric Pechenard d'avoir été ce matin au micro d'RTL.
Et cette interview, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr dans un instant. Cyprien Sini.